RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le 11 mars 1990, il y a 25 ans jour pour jour, le Parlement de la Lituanie, encore soviétique, déclarait l'indépendance. La Lituanie n'est devenue réellement indépendante qu'en août 1991, après le putsch à Moscou qui a renversé Gorbatchev et signifié l'implosion de l'Union soviétique. Depuis, l'histoire du pays balte est une success story, comme l'on dit. Il a adhéré à l'Union européenne et puis à l'OTAN, mais 25 ans après, le conflit en Ukraine fait ressurgir les vieux démons, d'autant que la Russie fait démonstration de son potentiel militaire aux frontières de l'État balte. Les craintes sont palpables et chamboulent la Lituanie. 25 ans après l'indépendance, la Lituanie s'inquiète du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Grand reportage signé Marielle Vituro, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Actas priimtas, sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą.
Il y a 25 ans, c'est lui, Vytautas Landsbergis, dont on entend la voix, pianiste, spécialiste du compositeur lituanien Čiurlionis, qui a mené le pays vers l'indépendance. Lui qui a énuméré à voix haute, nom après nom, le résultat du vote. 124 voix pour l'indépendance, quelques abstentions, aucune voix contre. Aujourd'hui, dans son petit bureau d'un quartier pittoresque de Vilnius, parmi des montagnes de livres et de papiers, le leader de la révolution chantante lituanienne, député européen jusqu'à l'année dernière, prend la menace russe très au sérieux.
L'Ukraine ne défend pas uniquement son propre État ou la Géorgie, la Moldavie ou les autres anciennes colonies soviétiques. L'Ukraine défend aussi l'Europe. Si la Russie régresse et redevient un empire agressif et vindicatif, elle ne s'arrêtera probablement pas à ses propres frontières. De l'autre côté se trouve l'OTAN, les pays baltes. Un agresseur particulièrement fanatique pourrait se dire « Et pourquoi ne pas attaquer l'OTAN ?» Le but de la Russie est d'anéantir l'Occident. Dans le jargon du KGB, les États-Unis ont le nom de code « Carthage. Ils connaissent leur classique et Caton, l'ancien qui commençait tous ses discours par il faut détruire Carthage.
C'est précisément à Vilnius, en novembre 2013, à l'occasion du sommet sur le partenariat oriental, que la situation a commencé à se dégrader en Ukraine. Le président Yanukovych refuse de signer l'accord de coopération entre son pays et l'Union européenne. Tout s'est ensuite accéléré. Les centaines de morts sur la place Maïdan, l'annexion de la Crimée, la prise de Debaltseve par les séparatistes russes, alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été signé quelques jours plus tôt à Minsk, le 12 février 2015. Un conflit de plus en plus sanglant qui bouleverse les Lituaniens, comme Jivile Etevičiūtė, responsable de projet à la Galerie Nationale d'Art.
Labas.
Cette crise me rappelle les années 90, quand nous nous battions pour notre liberté. J'avais tout juste 13 ans à l'époque, mais je me rappelle très bien ce sentiment d'unité qui nous rassemblait. Depuis quelque temps, mes rituels quotidiens ont totalement changé. À certaines périodes, je passe des journées entières avec mon ordinateur sur les genoux. Je lis les nouvelles, je regarde les débats, j'écoute la radio. Dès que j'ai un moment, je regarde les sites internet, j'écoute les émissions, ce que dit la presse lituanienne ou étrangère, les différents blogs. Et quand je vois que tout commence à se répéter, eh bien j'arrête jusqu'au lendemain.
Rien n'a changé. Et pourtant, tout a changé. Entre les actions du quotidien, se rendre à son travail, s'occuper de son fils, préparer le repas, aller voir une exposition, certaines pensées s'immiscent, de plus en plus insistantes.
Ce conflit commence à durer. Les comparaisons avec le début de la Seconde Guerre mondiale sont de plus en plus troublantes. Quand on a célébré en mai dernier le 10e anniversaire de l'adhésion à l'OTAN, les avions de chasse des Alliés sont passés en vrombissant juste au-dessus de ma tête. Le bruit était si fort que je me suis recroquevillée inconsciemment. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de sentir la guerre. Pour moi, elle peut maintenant éclater d'un moment à l'autre. Et j'ai commencé à me poser des questions. Que faudrait-il faire dans ce cas ?
Une atmosphère de crainte et d'angoisse conditionnée par les actions mêmes du régime de Vladimir Poutine. Irmina Matonité, professeure de sciences politiques.
L'agressivité du régime de Poutine devient plus en plus importante. Ce régime n'était jamais très amical envers la Lituanie. Quand l'animosité avait les couleurs du chantage économique, ça a encore allé. La Lituanie, comme vous savez, payait les prix de gaz, de pétrole les plus chers en Europe. Mais quand ce régime devient agressif et avec des exemples d'agressivité militaire en Ukraine, ça vraiment incite la peur.
Une nouvelle donne qui n'est pas sans conséquence sur la vie politique du pays. Thomas Yanelounas, rédacteur en chef politique du mensuel IQ.
L'attention de la scène politique entière est tournée maintenant vers les moyens de renforcer le niveau de sécurité dans tous les domaines. Les dépenses concernant le secteur de la défense sont en augmentation. La diplomatie a une nouvelle tâche évidente. Expliquer ce qui se passe en Ukraine, inciter les pays de l'OTAN, de l'Union européenne à tout faire pour éviter un élargissement du conflit et pour réduire l'influence de la Russie par tous les moyens. Tout cela peut être au détriment d'autres domaines de la vie publique.
En 2015, pour la première fois depuis 7 ans, le budget alloué à la défense a augmenté d'un tiers. Une hausse qui permet d'envisager de nouveaux investissements en matériel et le recrutement de 450 hommes par an. Une nécessité car l'armée lituanienne est en sous-effectif chronique. Le conflit en Ukraine a provoqué un regain de patriotisme. L'Union des tireurs, une organisation paramilitaire fondée en 1919 et tombée en désuétude, renaît de ses cendres. Elle compte aujourd'hui 7 000 membres, presque autant que l'armée lituanienne. Les entraînements qui suivent Victoria, une jeune étudiante en physique nucléaire, y sont très sérieux.
Ces derniers temps, j'étudie beaucoup la topographie, mais j'ai aussi eu des cours sur la guérilla urbaine, une formation approfondie en premier secours. Les liaisons radio, qui sont quelque chose de très utile, n'ont plus de secret pour moi. Je me suis constitué une petite réserve de nourriture avec différentes boîtes de conserve. J'ai déjà réfléchi où je mettrais mes proches en sécurité si Vilnius était attaqué. Mais comme je fais partie de cette union des tireurs, je resterai sur place, car très certainement, l'une de nos assignations serait d'assurer l'ordre public.
Certains directeurs d'école s'engagent aussi, comme Viktoras Blinovas. Il y a 25 ans, lors des luttes pour l'indépendance de la Lituanie, il dirigeait l'Union des professeurs. Pour lui, il est nécessaire d'être préparé à toute éventualité.
Nous avions l'habitude d'organiser des exercices, comment se comporter par exemple en cas de situation exceptionnelle. Souvent, nous prenions l'exemple d'un incendie. Aujourd'hui, nous expliquons aux élèves que les dangers peuvent être de toutes sortes, même si évidemment, nous n'employons pas le terme de guerre. Nous suivons de très près ce qui se passe en Ukraine et nous leur posons la question, si la même chose se déroulait chez nous, comment faudrait-il se comporter ? Comme le petit guide de survie en cas d'invasion du ministère de la Défense existe en version électronique, je l'ai tout de suite envoyé aux parents. J'ai même réitéré l'envoi car certains venaient à la bibliothèque de l'école et souhaitaient l'obtenir.
Cette guerre crainte, redoutée, a déjà lieu sur un front. Les médias, dans le top 10 des articles les plus lus sur le net, tout ce qui a trait au conflit en Ukraine. Monika Garbachowskaïté dirige la rédaction du site internet Delphi avec 350 000 lecteurs par jour. C'est le site d'information numéro 1 en Lituanie.
La guerre, telle que nous la concevons et en avons fait l'expérience au XXe siècle, n'existe plus. Les médias sont devenus un nouveau front et nous menons pratiquement cette guerre tous les jours. Les trolls du Kremlin sont devenus très actifs en commentant nos articles. Avant ces événements, nous éliminions 700, 800 commentaires quotidiennement. Maintenant, ce chiffre est passé à 2500, 3000. Ils observent la manière dont nous effaçons ces commentaires et cherchent tous les moyens pour continuer à publier. Aujourd'hui, nous avons compris avec l'Occident que nous avions perdu cette bataille de l'information. La propagande du Kremlin est allée très loin. Ils ont investi vraiment des millions, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne respectent absolument pas les règles.
Ukraine,
En réponse, la Lituanie et les Lituaniens s'engagent. Depuis le début de la crise, la Lituanie a fourni plusieurs tonnes d'aide humanitaire à l'Ukraine. Une initiative privée appelée Yellow Blue, jaune et bleu, couleur de l'Ukraine, aide même l'armée ukrainienne en matériel grâce aux dons des Lituaniens. Les artistes aussi se mobilisent comme Rokas Radzevičius et son groupe Skylė. Plusieurs chansons de leur album sur les partisans lituaniens qui ont combattu les soviétiques ont été traduites en ukrainien. L'engagement du groupe pour aider l'Ukraine vient de loin.
Ce n'est pas le souvenir des événements d'il y a 25 ans qui nous lie aux Ukrainiens. Nous avons une histoire commune de plusieurs centaines d'années. À une époque, la Lituanie et l'Ukraine ont formé un seul État. De ce que nous avons pu lire, entendre de nos parents des événements qui se sont passés après la Seconde Guerre mondiale, on constate qu'aujourd'hui en Ukraine, rien n'a changé. Les méthodes n'ont fait que se perfectionner pour diffuser le mensonge et la propagande. On a poursuivi notre engagement. Nous avons contribué à la traduction de la constitution d'un petit quartier d'artistes de Vilnius en ukrainien. Nous avons traduit 4 autres chansons en ukrainien. Et pour la fête nationale, le 16 mars, nous avons invité un groupe ukrainien à se produire.
Le conflit en Ukraine et les craintes pour la sécurité exacerbent les clivages de la société lituanienne et provoquent parfois certains remous. Tomas Janelunas, rédacteur en chef du mensuel IQ.
Nous sommes désormais forcés plus que jamais à nous poser la question des valeurs que nous voulons pour notre société. Une des conséquences a été le débat autour des statues soviétiques, toujours présentes sur le pont vert. Doit-on les retirer ou non du pont? Et on voit que leur sort divise totalement la société. Il y en a pour qui voir quotidiennement ces symboles soviétiques, cela est tout à fait normal. Et ces gens-là n'imaginent pas que l'on puisse aujourd'hui se comporter autrement que pendant l'époque soviétique. Et puis il y a ceux qui veulent ouvrir une nouvelle page de l'histoire, en ayant conscience du passé, mais sans autoriser ce passé à nous entraîner vers le bas.
Les Russes et les Polonais de Lituanie représentent environ 12% de la population du pays, sur 3 millions d'habitants au total. Ces deux minorités vivent majoritairement dans le monde médiatique russe. Une partie de cette population, mieux intégrée en Lituanie, vit difficilement ce conflit, à l'instar de Nikolajus, ingénieur en bâtiment.
Ma mère est née dans le nord de la Lituanie, elle est d'origine ukrainienne, mon père, lui, est d'origine russe. Je suis à la fois donc russe et ukrainien, et tout ce qui touche à ce conflit, que ce soit l'une ou l'autre partie, tout m'est également douloureux, et finalement je ne soutiens ni l'une ni l'autre partie. Il faudrait que le dialogue s'instaure. Je cherche mes infos de tous les côtés. Je ne peux que constater une chose, cette guerre de l'information est vraiment énervante. Dans les médias lituaniens, on ne parle que d'une chose, les Russes vont attaquer. C'est une manière pour moi de se détourner des vrais problèmes.
Certains Russes de Lituanie ne s'en cachent pas. Ils soutiennent ouvertement la Russie. Le chef politique de la minorité polonaise aussi. Après l'avoir supprimé il y a quelques années, le gouvernement a décidé de reformer le département pour les minorités nationales, pour favoriser leur intégration. Une question très d'actualité. Tomas Janelunas.
Pendant longtemps, les différents gouvernements ont ignoré les minorités présentes dans le pays, en estimant qu'elles ne posaient pas problème. Mais aujourd'hui, c'est un véritable problème. On peut que constater que cette part de la population vit totalement à l'écart. Ils ont des sources d'informations différentes, ils regardent les chaînes de télévision russes, et ils ont une perception totalement différente des événements en cours. Ils ont l'impression d'être les parents pauvres, et se tournent vers les autres, vers les Russes, les Polonais, voire même d'autres gouvernements étrangers. Ils ne représentent que 12% de la population, mais le risque est là qu'ils ne soient pas loyaux envers l'État lituanien.
À 33 ans, Gabrielius Landsbergis, le petit-fils de Vytautas Landsbergis, est aujourd'hui député européen chargé du rapport sur les relations entre l'Union européenne et la Russie qui devrait être voté en juin au Parlement européen.
Beaucoup préfèrent ne pas se rappeler un événement pourtant relativement récent. En 2008, la Géorgie, un autre pays du partenariat oriental, a été en guerre contre la Russie et une partie de son territoire a été occupée. Il y a très peu de différence dans les faits avec ce qui s'est déroulé en Crimée. Nous sommes arrivés à un point de non-retour, il est désormais impossible de faire marche arrière. Toutes les options sont possibles aujourd'hui. Le meurtre d'un opposant politique, abattre un avion civil en plein vol, ce régime ne veut rien d'autre que la confrontation.
Considérant le danger comme tout à fait réel, la Lituanie a fait le choix de faire de ce conflit l'une de ses priorités diplomatiques et de soutenir l'Ukraine par tous les moyens. Un choix approuvé par Vytautas Landsbergis, à la différence de la position occupée par l'Union européenne.
L'Union européenne a une estimation juste de ce qui se passe, mais trop peu audacieuse. Son message se limite à des mots, aucune action. Pourtant, l'empereur ne comprend que les actes. Il se rit de ceux qui se contentent de parler.
25 ans après l'indépendance de la Lituanie, regard de lituanien sur le conflit en Ukraine, un grand reportage de Marielle Vitureau, réalisation Marc Minatel.
Marielle Vitureau, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors une certaine tension est donc palpable en Lituanie, comme vous nous l'avez fait sentir. Et puis les questions de défense qui deviennent vraiment la priorité numéro un en ce moment dans le pays. Alors pour autant, est-ce que les Lituaniens accepte bien ce revirement de priorité?
Oui, eh bien Laurent, une immense majorité des Lituaniens partagent les craintes exprimées par la classe politique au sujet de la sécurité de la Lituanie. Ils approuvent l'aide de l'OTAN, la présence de soldats américains, la création d'un centre de commandement dans leur pays. Pourtant, quand le rétablissement du service militaire a été annoncé, on a vu qu'une ligne de fracture apparaissait parmi la population. Certains jeunes ont dit d'emblée qu'ils préféraient émigrer plutôt que faire leur service. Et dans la classe politique, cette division existe également. Le Parlement va devoir voter pour le rétablissement de la circonscription et la loi pourrait être finalement plutôt difficile à voter. Alors, de fait, pour expliquer cette situation, le souvenir du service militaire à l'époque soviétique est encore très fort. C'était une expérience très éprouvante pour les jeunes gens, en cause la rudesse du système. Et puis, même si la Lituanie a fait des progrès fabuleux en 25 ans, une partie de la population refuse nettement de s'engager pour le bien collectif. La priorité est donnée aux intérêts personnels.
Les médias jouent un rôle essentiel dans ce conflit. La Lituanie a-t-elle développé des médias à destination de la population russophone pour justement contrer la propagande de l'État russe?
Pas encore, mais le ministère lituanien des Affaires étrangères a lancé avec quelques pays européens une initiative pour créer un nouveau média russophone à destination de l'Est pour offrir une autre vision des événements. Les autorités lituaniennes espèrent que cela aboutisse bientôt. La communication stratégique est aussi devenue l'une des priorités de la Lituanie. Le site d'information Delphi, que je cite dans le reportage, a une version russe qui a pris beaucoup d'importance avec le conflit en Ukraine. Et puis, la télévision nationale a également comme projet la création d'une émission pour déconstruire la propagande russe à l'égard des Baltes et de l'Occident. C'est une activité déjà très en vogue sur les réseaux sociaux.
Vous le dites dans votre reportage, les Russes et Polonais de Lituanie ne représentent que 12% de la population, un chiffre, on va le dire comme ça, très faible, en comparaison des pays voisins, la Lettonie et l'Estonie. Ces deux minorités pourraient-elles basculer dans le giron russe et représenter un danger pour la Lituanie?
Jusqu'à présent, l'avis partagé par de nombreuses personnes était que ces minorités étaient relativement bien intégrées, même si ces derniers temps, les relations avec la minorité polonaise sont relativement tendues. Il y a deux raisons à cela. La Lituanie interdit les noms de rues en polonais dans les régions où la minorité est très présente. Et puis, certaines lettres utilisées dans l'alphabet polonais sont aussi interdites en Lituanie sur les documents officiels. C'est le cas du W qui n'existe pas en lituanien. Aujourd'hui, la minorité polonaise qui vit dans le monde médiatique russe est unie politiquement autour d'un leader controversé qui ne cache pas son admiration pour Moscou. Valdemaras Tomaszewski porte le ruban de Saint-Georges, le symbole russe, et cette force politique est arrivée troisième dans plusieurs municipalités lituaniennes lors des élections du 1er mars dernier. Ce fait pourrait également changer la donne.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter sur RFI.fr dans son intégralité. Marielle Vituro, merci beaucoup. Bonne journée.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose